Double Face, Valérie Ogier, Isabelle Bertolini.
Notre invité cette semaine est psychiatre, pionnier de l'énergie solaire, explorateur et entrepreneur. Bonjour Bertrand Piccard.
Bonjour.
Nous allons évoquer votre parcours, vos souvenirs, vos projets. Et c'est Isabelle Bertolini qui remonte le fil de votre vie en quelques dates.
Bonjour Bertrand Piccard. Alors, est-ce qu'on peut réellement résumer le parcours de Bertrand Piccard en quelques dates? Difficile quand même. On retiendra donc les plus marquantes. Vous décrochez le titre de champion d'Europe de voltige en aile delta en 1989. En 99, vous parvenez à boucler votre tour du monde en ballon et vous en bouclez un autre avec Solar Impulse à cheval entre 2015 et 2016. Cette passion pour les airs remonte à loin. Il faut dire que votre famille n'y est pas étrangère, avec un grand-père qui a été le premier à atteindre la stratosphère en ballon. C'est lui qui vous a transmis le virus ?
C'est lui, c'est mon père, c'est tous les astronautes, les pionniers, les explorateurs, les plongeurs que j'ai rencontrés comme enfant, mais grâce à mon père. Et tous ces gens-là m'ont montré une vision de la vie dans laquelle on explore, on se remet en question, on prend le risque de sortir de ses certitudes. Et c'est vrai que c'est une vision de la vie que j'ai toujours eu envie de suivre depuis.
Et c'est une vision de la vie qui a aussi débordé sur la nôtre, parce qu'en 1999, lors de cette première réussite aéronautique, on a suivi votre aventure jour après jour, ce tour du monde en ballon sans escale. Je me souviens qu'à la RSR, à l'époque, il y avait une cabine dédiée pour faire des directs avec Bertrand Piccard. Vous, quelle image vient en premier dans vos souvenirs de cette aventure ?
Des paysages superbes. Le vol lui-même, c'est ce qui me donne le plus de plaisir quand j'y repense. Parce que les préparatifs, c'est jamais facile. Vous avez tous les gens qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Ceux qui avaient même écrit que Breitling envoyait son pilote au casse-pipe uniquement pour raisons publicitaires, que j'avais pas assez d'expérience, que mon ballon était trop petit, que, évidemment, Richard Branson, Steve Fossett, des grands milliardaires, partaient favoris. Donc, vous heurtez quand même à beaucoup d'obstacles. Et puis finalement, il y a deux échecs où vous avez l'impression que les autres ont peut-être quand même raison, que vous n'y arriverez pas. Et puis à la fin, vous réussissez. Et quand vous réussissez, c'est un immense bonheur, mais c'est aussi un immense soulagement. Vous dites, mais enfin c'est fait. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de baby blues à la fin. On me demande souvent, mais est-ce qu'après vous êtes déprimé? Je dis non, je ne suis pas déprimé parce que c'est tellement difficile d'y arriver que je suis heureux de pouvoir passer à autre chose. Mais par contre, il reste des paysages superbes, des moments magnifiques, des levées de soleil, des couchers de soleil sur les déserts, sur les océans, sur les nuages. Et ça, ça vaut tous les efforts.
Vous l'avez dit, trois tentatives pour faire ce tour du monde en ballon. En 97, fuite de carburant, c'est ça qui arrête votre premier voyage. Le second, c'était l'année suivante, en 98. Là, vous arrêtez à cause d'une interdiction de survoler la Chine. Grosso modo, vous devez faire un gros détour et puis ça met fin au voyage. Et puis 99, donc cette réussite. Finalement, c'est les échecs de 97-98 qui vous apprennent plus ou c'est la réussite de 99 ?
Les échecs apprennent beaucoup, mais il ne faut pas croire que c'est drôle. On dit parfois, ouais, il faut rater, c'est bien, on apprend plein de trucs. C'est horriblement pénible de rater. Mais c'est vrai que si vous apprenez ensuite à réessayer différemment, à changer de stratégie, à changer de technologie, parfois même à changer d'équipage, eh bien, chaque fois, vous progressez. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les milliardaires qui étaient mes concurrents, eux, ils ne changeaient jamais rien. Ils rataient comme moi, mais ils réessayaient de la même manière qu'avant, et ils rataient chaque fois pour la même raison. Moi, j'ai raté chaque fois pour une autre raison jusqu'à ce que je réussisse. Et c'est ça que je retiens. En fait, il faut être persévérant, il ne faut pas être acharné.
Et ça, ce sont vos études de psychiatrie, Bertrand Piccard, qui vous ont amené justement à ajuster au fur et à mesure.
Je dirais beaucoup plus ma formation d'hypnose. En psychiatrie, on apprend des concepts qui sont certes intéressants, mais ensuite, dans la formation en hypnose, on apprend beaucoup plus de choses. On apprend la créativité dans la thérapie. On apprend qu'on doit s'adapter au patient, qu'on doit s'adapter à la situation. On n'a pas le rôle dominant, parfois un peu arrogant, du médecin qui veut que son patient s'adapte à lui, à sa théorie, etc. Non, le médecin, il est en dessous dans une thérapie par hypnose et il laisse le patient progresser, l'accompagne et lui conseille de changer d'altitude, comme dans un ballon, pour trouver d'autres directions dans sa vie. Donc en fait, je dirais qu'en thérapie, le médecin est le météorologue et pas le pilote du patient. Ce qui fait que quand on est dans des situations de crise, on fait la même chose. On essaye de changer d'altitude, on essaye de trouver d'autres manières de faire, d'autres manières de penser, d'autres issues, mais surtout pas s'acharner, je dirais, de manière butée sur le même obstacle.
Et la suite de Double Face avec Bertrand Piccard, ce sera dans quelques minutes sur LFM.